se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de pommes Pink Lady est à seulement 1,99€.
À ce prix-là, je tombe dans les pommes.
1,99€, c'est un prix qui ne rigole pas.
Et en plus, elles sont origine France.
Comme toutes nos pommes, c'est ça, le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,99€, le kilo de pommes Pink Lady, origine France, variété Crips Pink, catégorie 1, calibre 170, 201 grammes. Existe en Barket Kids ou 6 fruits. Valable dans vos magasins et drive, Auchan participants et en livraison à domicile.
Vous écoutez
RMC.
Face à face.
Neila Latrousse.
8h32 sur BFM TV et RMC. Mon invité est donc le maire de Nice. Bonjour Christian Estrosi.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio. Vous étiez hier dans votre ville avec le Premier ministre pour l'ouverture d'un internat pour les élèves décrocheurs, pour le dire autrement, des jeunes qui sont sur la pente de la délinquance. La prévention, c'est l'un des volets du plan de Gabriel Attal. Je voudrais vous entendre là-dessus dans quelques minutes. Parce que le moins que l'on puisse dire, Christian Estrosi, c'est que nul ne songe à vous classer parmi les élus laxistes en la matière. Vous avez eu par le passé des propos fermes sur la délinquance des jeunes, sur la responsabilité des parents. Vous faites partie de ces élus dont la voix compte. Qu'avez-vous pensé des annonces de Gabriel Attal ?
Bon, d'abord, ce n'était pas l'ouverture d'un internat spécifique à ça. Ça reste un internat d'un lycée, d'ailleurs du lycée où j'ai fait mes études. Et c'était un stage de rupture.
Qui est utilisé pendant les vacances.
Pendant les vacances scolaires. Donc
remettre sur le droit chemin.
On a illustré le garde des Sceaux et Gabriel Attal ont voulu illustrer dans une ville d'ailleurs qui est la seule où il n'y a pas eu d'émeute urbaine, je vous le rappelle, au mois de juin dernier, comment on pouvait prendre 20 adolescents qui avaient entre 13 et 14 ans et qui étaient en limite de décrochage scolaire et où les parents étaient volontaires par l'intermédiaire d'associations de quartier que nous finançons et qui ont des médiateurs pour faire une expérimentation sur un stage de rupture pendant 12 jours de vacances scolaires.
Mais qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne solution, c'est une bonne piste d'isoler ces jeunes
mais naturellement, ça fait partie d'une piste, mais en même temps, elle est tellement révélatrice, cette piste. Lorsque je vois...
Révélatrice de quoi ? Le
débat qui s'est instauré avec le Premier ministre autour de lui, qui avait des côtés surréalistes, où vous aviez d'un côté... des parents qui disaient, puisqu'ils étaient là aussi dans ce débat que nous avons partagé, merci à la collectivité, merci au Premier ministre et au garde des Sceaux de cette initiative. On a du mal avec nos enfants. On a proposé par l'intermédiaire de l'association de les prendre en charge pendant ces jours de vacances. Et puis vous aviez les gamins qui disaient « mais moi je veux pas, mais moi j'ai rien à faire ici », et qui sont même allés jusqu'à dire, lorsque le Premier ministre à un moment les interroge « tu fais quoi dans ta journée ?»« Ah ben moi je suis sur TikTok du matin au soir, ou dans la rue du matin au soir, et sur TikTok tu regardes tout, quoi ?»« Ah ben ce qui m'intéresse surtout c'est de regarder les images de la violence sur les flics et des flics qui se font caillasser. »
Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire que vous craignez que l'expérimentation n'échoue, que ce n'est pas suffisant, que ces jeunes n'ont pas l'air au fond de comprendre ce qu'ils font là ?
Non mais je dis que quand on a ce constat-là, on se dit que bon, il faut faire l'expérimentation par ce stage de rupture qui est intéressant, mais il va falloir faire un bilan aussi à la fin du stage de rupture, parce que si il n'y a pas effectivement une rupture au terme de ce stage où on a changé de langage...
Parce qu'ils reviennent auprès de leurs copains auprès des deux semaines.
Et qu'on revient aux fondamentaux qui sont les leurs aujourd'hui, je pense qu'il faut passer une étape supérieure.
C'est quoi l'étape supérieure ?
Et l'étape supérieure, puisque les stages, ça existe quand même, nous en pratiquons nous-mêmes, collectivités, toute l'année, pendant toutes les vacances scolaires, c'est naturellement alors un vrai placement en internat, avec une injonction à être placé dans des places disponibles, puisque comme on nous l'explique depuis un certain temps, et c'est une réalité, nous le constatons nous-mêmes, puisque nous avons des internats régionaux dans nos lycées,
C'est-à-dire à l'année. Un placement à l'internat à l'année Christian Estrosi, pas uniquement pendant les vacances.
Selon les localisations, entre 20 et 40% de places d'internat disponibles et qui doivent être placées à l'année et encadrées à l'année dans ces internats.
Oui, Christian Estrosi, hier, aux côtés de Gabriel Attal, vous avez cité le garde des Sceaux qui était présent. Il y avait aussi la ministre des Familles, la secrétaire d'État Sabrina Agresti-Roubache, qui dépend du ministère de l'Intérieur, mais il n'y avait pas la ministre de l'Éducation. Est-ce que c'est regrettable?
La ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, était venue quelques jours avant à Nice pour que nous puissions illustrer un certain nombre de choses que nous faisons.
Donc c'est une fausse polémique, ceux qui disent qu'elle n'y était pas.
La convention que j'ai signée moi-même, on est la première ville de France à l'avoir fait avec la rectrice de l'Académie sur la lutte contre le harcèlement scolaire, parce que c'est aussi une souffrance et une réalité. Donc j'imagine que dans la répartition des déplacements du gouvernement et de leurs responsabilités, les choses ont été organisées comme ça. Mais je ne doute pas, parce que je sais que Nicole Belloubet a une véritable volonté aussi. Elle était très intéressée lorsqu'elle est venue voir ma propre expérience, puisque nous sommes les seuls aujourd'hui à avoir un policier dans chaque école communale, école primaire donc, un bouton d'alerte entre les mains du directeur de l'école, des policiers à l'extérieur, des caméras à l'extérieur. Vous savez qu'aujourd'hui, en période vigilance-attentat, ce qui est le plus menacé, ce sont nos écoles,
et
ce sont nos jeunes.
Et j'ai même le souvenir, Christian Estrosi, que vous aviez lancé un débat sur les portiques de sécurité et que vous aviez mis en œuvre en 2009, dans votre ville, un couvre-feu pour les mineurs. C'est une question qui revient dans l'actualité. Le maire de Béziers a mis en place hier un couvre-feu pour les moins de 13 ans dans sa ville. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la même mesure pour Pointe-à-Pitre. Est-ce que vous, à Nice, vous songez à remettre en œuvre un couvre-feu pour les mineurs
dans votre
ville?
Mais nous l'avons mis en œuvre en 2009.
Oui.
Bon, et ça a montré son efficacité.
C'est efficace.
Nous avons eu...
Vous faites le lien entre cette mesure et le fait qu'il n'y ait par exemple pas eu d'émeute urbaine dans votre ville.
Et ce que j'ai mis en 2009, on va le poursuivre aujourd'hui, naturellement. Ouais. Et le maire de Béziers a raison, et le ministre de l'Intérieur a raison. C'est une des bonnes mesures qu'il faut mettre en application, vous savez.
Donc vous allez le remettre en œuvre à Nice, pour bien comprendre, parce que je n'ai pas le souvenir que depuis 2009, le couvre-feu était prolongé jusqu'aujourd'hui.
Il y a eu une interruption au moment du Covid, puisque le couvre-feu était pour tout le monde au moment du Covid. Donc nous sommes en train de renouveler l'arrêté de 2009 pour qu'il puisse poursuivre le rôle qu'il a joué de 2009 à 2020 et qu'il puisse aujourd'hui, où nous sommes
pour les moins de 13 ans aussi,
à cette violence, bien sûr, pour les moins de 13 ans.
C'est la catégorie d'âge que vous visez.
Mais c'est une catégorie d'âge que je vise, mais je suis en train de regarder, même si sur les moins de 14 ou 15 ans, nous ne pouvons pas le mettre en œuvre, parce que, ou en tout cas dans certains quartiers.
Ouais. Ce sera dans toute la ville ou dans certains quartiers, puisque vous dites à l'instant...
Non, ce sera pour toute la ville, pour les moins de 13 ans, et on va identifier
dans les prochaines semaines, avant l'été.
Lorsque je vois, par exemple, ce qui se passe sur le trafic de drogue dans des points de deal qui sont bien identifiés dans un quartier qui est celui des Moulins, par exemple, nous allons voir si nous ne pouvons pas monter jusqu'à 14, 15, voire 16 ans, là où nous voyons les difficultés qu'il y a pour la police et pour la justice de venir à bout de certaines filières. Ça fait partie de ces sujets où nous voyons bien que dans les annonces de son discours de politique générale, comme celle renouvelée et avirée par le Premier ministre, à la fois sur la prévention et sur la répression, il y a des mesures importantes qui doivent être mises en œuvre le plus rapidement possible.
Ça ne va pas assez vite pour vous, Christian Estrosi.
Je me dis qu'il y a des choses qui pourraient aller plus vite. Pourquoi, par exemple, alors qu'il y a des lois qui ont été votées, je pense à la loi Taquet sur la protection de l'enfance, le décryptage, sur l'accueil, sur l'accompagnement sont prévus, les décrets d'application ne sont toujours pas pris. Ouais. Mais prenons-les tout de suite et dès la semaine prochaine, ils seront opérationnels. Il y a un manque de moyens évident. Aujourd'hui, on sait qu'il manque près de 30 000 éducateurs spécialisés. Ouais. Nous savons que nous avons près d'un tiers des structures d'encadrement qui sont en sous-effectif. Nous savons qu'il y a près de 50% des établissements scolaires dans lesquels il manque à minima un enseignant.
Et vous dites qu'il y a un décalage entre le discours ferme et les moyens mis sur la table.
Je vois cette volonté de Gabriel Attal que je soutiens et que j'accompagne, mais en même temps, il y a naturellement la volonté, et puis il doit y avoir le passage à l'action le plus rapide possible. Et puis, il doit y avoir naturellement aussi un réalisme que je voudrais qu'il soit beaucoup plus affirmé.
À quel sujet, Christian Estrosi ?
Par exemple, pourquoi on veut toujours occulter le fait que la délinquance, que l'immigration clandestine, que l'échec de l'intégration soit lié, alors que nous savons que dans toutes les statistiques, c'est une réalité à plus de 60%.
Emmanuel Macron,
comme s'il y avait une petite gêne quelque part.
Emmanuel Macron avait fait le lien dans les années passées, en évoquant notamment le fait de pouvoir expulser des personnes immigrées qui se sont rendues coupables de délits sur le sol français. Il avait fait le lien, Emmanuel Macron.
Eh bien, dans ces mesures aujourd'hui, il faut y aller.
C'est-à-dire,
il faut le dire.
Qu'est-ce que vous réclamez de la part de Gabriel Attal en la matière, pour bien comprendre ce que vous dites, bon, Christian Estrosi?
Écoutez, le problème du séparatisme.
Oui.
Le problème de cette cinquième colonne que j'ai été le premier à dénoncer en 2015 et qui aujourd'hui a parcouru tout son chemin est implanté de partout. Il serait peut-être temps, par exemple, qu'on interdise toutes les écoles qui ne sont pas sous contrat d'association avec l'État. Je vois
cinquième
le tribunal
colonne,
administratif
c'est ce que dit
de Nice.
Notamment Jordan Bardella dans le journal du dimanche
fermé,
ce week-end.
Fait fermer un collège de confession musulmane qui n'était pas sous contrat d'association, qui a une opacité totale sur la transparence de son financement, et le tribunal administratif...
Le collège Avicenne, pour le citer.
Qui vient de casser la décision qui est prise par le préfet. Alors
oui, certes, parce que le tribunal
dit
que...
sur le fond.
Alors, je vais expliquer pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, Christian Estrosi. Le tribunal administratif a jugé que l'accusation portée par le préfet sur les financements opaques n'était pas étayée.
Oui, et c'est pas étayé. Mais ce qui n'est pas étayé, c'est les explications fournies par le collège. Et comment le tribunal administratif, qui est censé demander au collège les preuves que n'a pas obtenues le préfet et qui ne les obtient pas lui-même,
la justice dit que le préfet
peut-il casser la décision du préfet
en disant que le préfet est incapable de justifier ce dont il accuse
je
ce
dis,
collège.
Nous éviterons bien des difficultés si sur tout ce qu'il y a comme mesures confessionnelles dans des écoles ou des collèges ou des lycées sans contrat d'association avec l'État, on décide que ce soit des établissements qui ne puissent pas dispenser l'éducation nationale. L'éducation nationale, ça a un sens. Dire l'éducation nationale, c'est la même éducation pour tout le monde.
Donc Christian Estrosi, d'un mot, vous êtes d'accord avec Gabriel Attal quand il dit sur le plateau de BFM TV qu'il y a une forme de charia qui s'impose aujourd'hui dans l'éducation.
Oui.
Que certains essayent d'imposer les passages.
Oui. Il le dit avec des mots justes, avec des mots forts, et je les partage naturellement.
Vous avez vu que la Grande Mosquée de Paris l'accuse aujourd'hui de parler comme le Rassemblement National, ce que dit d'ailleurs le Rassemblement National aussi en se reconnaissant dans les mots de Jordan Bardella, et en disant systématiquement, à l'approche des élections, je cite de tête le communiqué de la Mosquée de Paris, il y a cette tentation d'instrumentaliser la question des musulmans.
Ce que je dis moi-même depuis 15 ans, on va me dire, vous dites la même chose que le Front National, je peux vous dire aussi que le Front National dit la même chose que ce que je dis. Bon, c'est simplement du réalisme, c'est une réalité dans notre pays, pourquoi nous sommes confrontés à tout cela et d'autres pays ne le sont pas? Pourquoi l'Allemagne ne l'est pas? Parce que l'État n'a pas eu peur d'aborder ces problèmes avec le réalisme nécessaire. Ouais. Qu'aujourd'hui, il y a un principe de réalisme, eh bien, c'est tant mieux.
Christian Estrosi, j'en reviens aux annonces de Gabriel Attal. Il y a tout un volet sur la responsabilisation des parents, notamment. Vous citiez le préfet des Alpes-Maritimes. Dans un temps, il avait dit deux claques et au lit. Sa phrase avait suscité beaucoup de réactions. Est-ce qu'il faut restaurer le droit à la correction pour les parents, Christian Estrosi? Aujourd'hui, ça fait débat après la décision d'une cour de relaxer un policier qui précisément frappait ses enfants.
Eh bien, écoutez, d'abord, je suis pour cette responsabilisation. Nous voyons bien un abandon, nous voyons bien des parents. Alors, il faut faire une différence entre, encore une fois, une maman qui se retrouve dans une situation monoparentale, qui doit partir tôt, travailler le matin, rentrer tard le soir, et qui a 3, 4, 5 enfants à charge, toute seule, où là, nous devons mettre en place un système pour pouvoir l'aider,
ouais,
et l'accompagner et la soutenir.
Et, dites, et les parents qui n'essayent même pas.
Et puis les parents qui sont permissifs, les parents qui sont en situation d'abandon total,
ouais,
et qui là doivent être responsabilisés.
Ils ont le droit à la correction, à Chris France-Rosy.
Et donc c'est là que je demande à ce que, notamment dans les mesures que propose le Premier ministre, il rajoute des mesures de décentralisation,
ouais,
vers les maires. Parce que qui est-ce qui doit subir tout ça? Ce sont nous, les maires, qui,
vous
sur notre territoire,
sommes confrontés à tout cela. Vous dites qu'on doit pouvoir décider nous-mêmes, les maires, par exemple, des travaux d'intérêt généraux pour les parents, ou des choses dans le genre, c'est ça? Si je comprends bien ce que vous dites, Christian Estrosi, puisque vous restez un peu au milieu du guet, là.
Lorsque, écoutez, j'étais ministre délégué de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, et j'ai porté à ses côtés la loi sur la prévention de la délinquance des mineurs, qui a créé les contrats locaux de sécurité de prévention de la délinquance. Peu de villes en France le mettent en place. Moi, je l'ai mis en place.
Ouais.
Et ce qui nous permet aujourd'hui, notamment, de faire des rappels à l'ordre aux familles. Mais c'est très limité, le rappel à l'ordre. C'est vous avoir en face et vous dire, vous savez, c'est pas bien, votre gamin, il a fait ceci, il a fait cela. Je dis que je dois pouvoir décider, par exemple, là où je mets en place des travaux d'intérêt général, que je mets à disposition d'un tribunal pour qu'on me mette des mineurs, qu'on puisse aussi m'y mettre des majeurs.
Ouais.
Je suis en train de mettre en place une école de parents vigilants. Je veux pouvoir avoir un droit d'obligation, d'injonction à des parents pour pouvoir les prendre en charge et leur apprendre à être de vrais parents et faire le travail qui doit être le leur dans l'éducation des enfants.
Christian
et puis à un moment, j'ai instauré d'ailleurs avec mon conseil municipal il y a peu de temps, des amendes administratives qui viennent compléter des amendes judiciaires pour faire payer aux parents quand des enfants vont casser quelque part.
Il nous reste 4 minutes, Christian Estrosi, et j'aimerais vous entendre sur d'autres sujets. Votre ville va notamment recevoir les matchs de football des Jeux de Paris d'ici quelques semaines désormais. Est-ce que vous avez obtenu des garanties sur la sécurisation des matchs? Cela en ayant évidemment en tête le fait que le procès en appel des proches du terroriste de l'attentat du 14 juillet 2016 a lieu en ce moment et qu'à l'époque, vous aviez précisément pointé du doigt un défaut de sécurisation. Est-ce que pour les Jeux, vous êtes serein aujourd'hui? Vous dites, je sais que j'aurai le dispositif suffisant.
Bon, d'abord, on organise quelque chose de plus important, la dimension de Nice, que 6 matchs de foot. Des Jeux Olympiques, puisque le 21 juillet prochain, je vous le rappelle, pour la première fois au bout de 110 ans, le Tour de France cycliste n'arrivera pas sur les Champs-Élysées, mais arrivera sur la promenade
des Anglais. Et vous avez raison, et ça fait deux événements
à Nice,
importants.
Le 21 juillet.
Regardez, est-ce que vous avez toutes les garanties de sécurité?
Par ailleurs, si le ministre de l'Intérieur, alors que l'État à la charge de la sécurisation de ce qu'on appelle les grands événements, a donné son feu vert et m'a garanti la mobilisation d'un certain nombre d'unités mobiles pour ces événements, je lui accorde toute ma confiance. Donc je n'ai aucune inquiétude, même si nous savons que nous devons être extrêmement vigilants, mais dans la coordination qui doit être assurée par le préfet au nom du ministre de l'Intérieur, nous disposerons des moyens nécessaires. Mais puisque vous parlez de l'ouverture du procès en appel de l'attentat terroriste du 14 juillet, naturellement, je veux dire que c'est une deuxième souffrance, une deuxième épreuve vis-à-vis de ces deux complices, ou en tout cas ces deux associations de malfaiteurs qui ont été prononcées contre deux proches du barbare qui a assassiné 86 personnes sur la promenade des Anglais. Je souhaite non seulement que sa peine soit confirmée, voire même qu'elle soit renforcée. Et je veux exprimer en même temps toute ma compassion pour ces familles qui, naturellement, vont avoir à subir encore des semaines et des mois difficiles et éprouvants.
Puisqu'on évoquait le Rassemblement national, d'un mot, comment vous expliquez que Jordan Bardella culmine aujourd'hui à la tête de tous les sondages? Il est imbattable. Le Rassemblement national est devenu aujourd'hui imbattable.
Vous savez, dans les années 80, j'avais en face de moi, dans mon département, dans ma circonscription.
Oui, mais on ne parle pas de 80, on parle de 2024, Christian Estrosi.
Il y avait Jean-Marie Le Pen.
Et il y a 14 points entre la liste de Jordan Bardella et celle de votre majorité, Valérie Ayé.
Il y avait Jean-Marie Le Pen, auquel on donnait dans les sondages et qui les réalisait même 29, 30, 31%, c'est-à-dire à peu près le même niveau qu'aujourd'hui pour Jordan Bardella. Et à chaque fois, on disait qu'on allait se faire pulvériser dans notre association à l'époque.
Et donc, vous n'y croyez pas pour les européennes ?
Et à chaque fois, je l'ai emporté aux législatives, nous l'avons emporté aux élections régionales, malgré la présence physique de Jean-Marie Le Pen et des scores qui lui étaient donnés. Donc, je dis que nous ne sommes pas rentrer dans le feu de l'action des élections européennes.
Ce n'est pas perdu d'avance.
Choix, vous savez, l'Europe, ça nous a
Christian
protégé.
Estrosi, ce n'est pas perdu d'avance pour vous.
L'Europe, ça nous a protégé de la pandémie au moment du Covid. Les vaccins, les masques, tout ça, les Français en sont conscients, les Européens en sont conscients. Ça nous a protégé au moment de la déclaration de la guerre en Ukraine par la Russie.
Mais vous ne répondez pas
à ma
question.
Ça nous a protégé au plan économique. Je suis là pour plaider le fait que d'un côté,
vous
ayez un mouvement qui propose des choses où la Constitution ne permet même pas le quart de leurs mesures d'être mises en œuvre, et que ça n'est qu'une sorte de fumisterie, et que de l'autre côté, naturellement,
merci,
alors que nous avons à construire une Europe industrielle, une Europe qui protège, eh bien, je pense que nous allons rentrer dans le feu de l'action et que nous allons sans doute, avec Édouard Philippe et avec d'autres au cœur de la majorité présidentielle,
merci,
apporter
Christian
cette
Estrosi.
Voix de droite qui pourra nous aider.
Vous n'avez pas répondu à ma question, mais merci Christian Estrosi. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV. Merci de vous être déplacé, d'être venu à ce micro ce matin. Bonne journée à vous et bonne journée à tous.